Sono le 22:30.
È che gli stati nu
ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Elbisem zindelik, pabucum delik. Haberin olsa da sobayı yaksan. Yağmur iliğime geçti üstelik. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Çaldığım anda saç baş darmadağın. açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde yoksan. Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsem ne sen ayılsan, derin bir uykunun dibine sürtsek, içim ürperiyor ya evde yoksan. Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım, ilk önce sıcacık banyoya soksan. Sanırsın şu anda denizden çıktım, içim ürperiyor ya evde yoksan. Muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan.
Ce disque-ci ne fonctionne pas. Salut, cher auditeur. Te souviens-tu que c'est l'heure de ta dose de morphine radiophonique? Ah, une chose à la fois. Une chose à la fois. Te souviens-tu, cher auditeur, que c'est l'heure donc de ta dose de morphine radiophonique?
J'ai l'impression qu'il ne vient pas venir, Jérôme.
Et c'est le direct. Et c'est le docteur Riquet, avec sa voix infernale, qui va te l'administrer. Oui, c'est bon. Du calme. Oh, quoi? Là, je sais pas ce qui se passe, mais on se calme 2 minutes. Ok, tout va bien. Alors, l'orange et le noir, deux petites secondes, l'orange et le noir.
Enrique.
Le voilà. Ça, c'est pour Guy. Salut, Guy.
Salut.
Et voilà. Yves qui s'impatientait.
Alors, bonsoir, oui.
Alors, Yves n'entend rien.
Ben oui, bon, il a pas de retour, mais...
Ben, il faut se trouver un retour, au lieu de me faire des gestes.
Je suis sur la D.
Il me fait des signes. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis de ce côté.
Ça marchait à l'instant.
Ah, ouais. Ça marchait, hein, donc.
Oui, ça marchait.
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alors?
Faut que tu te débrouilles tout seul, mon grand. Tu peux pas.
Il a le...
L'orange.
L'orange, oui. Et le noir.
Tu peux pas l'aider.
Écoute, on est au maximum, là.
Oh. Au
maximum, qu'est-ce qui se passe?
J'ai loupé mon intro à cause de vous.
Alors, on a un voyant rouge là-haut.
Comment ça?
Oui, tout en haut. On est en voyant rouge.
Bah, normalement, c'est ok.
Bah, oui, tout est en.
Normalement, c'est ok. Mets-toi au micro.
Oui.
Oh, c'est pas possible. Ok.
Voilà, en principe, tout doit très bien fonctionner. Tu as le casque, tout...
Voilà.
Enfin, je dis ça, mais j'ai pas pris mon casque. Hein.
Ok. Tu peux
devenir. Enfin, je l'ai pas pris. Je l'ai, mais je ne l'ai pas mis. Voilà.
Moi, j'ai aucun retour.
Alors, aucun okay, retour, bah, aucun retour.
Pas. Eh bien, oh là là là là là là.
Alors.
Ça commence bien.
Alors, c'est le... Attention, attention. Hein. Le casque est déjà sur les oreilles. Bon, enfin, tout à l'heure, j'ai fait aussi quelques bévues avec, avec les micros et les écouteurs. Hein. Je ne suis pas en reste.
Ok.
Voilà. Attention, c'est parti.
Alors, est-ce que tout le monde est là ?
Est-ce
que tout le monde est là, bon sang ? Parce que j'ai raté mon intro à cause de vous. Bon, je vais mettre de la musique et on va essayer de se caler un peu mieux.
Alors, effectivement...
So
thoughts in particular, just walking. I could see the season changing. Outside and inside too. And there's nothing really to worry about, isn't it? As you walk, thoughts go down into my body and touch my feet that are on the ground, aren't they? And it's the breath. It's the breath. I love this sun touching my skin. Oh.
Sur Radio Libertaire, et c'est le vendredi soir, normalement à 22h30, mais ce soir un peu plus tôt, les amis d'Orwell ne sont pas là, donc de passe dans le radio show, le retour. J'étais, comme vous le savez, presque mort juste avant mon retour la semaine dernière, l'épisode 1, numéro 1 de ma nouvelle vie. Et voici l'épisode numéro 2 de cette nouvelle vie qui continue. Espérons-le, enfin j'espère, pour moi-même. Alors ce soir, comme d'habitude, des intervenants qui foutent un peu leur bordel. Guy et Yves. Et pour... Non, vos micros sont pas ouverts. Pas la peine de... Et pour la partie musicale, ce soir nous... Nous allons nous écouter quelques titres extraits d'une compilation, encore une, des éditions Osare, Osare édition Records du label Osare, de Male Body Will Be Next, partie ou une, puisqu'il y a deux parties dans cette compilation, et là il s'agit de la compilation numéro 1. La deuxième partie va paraître dans quelques jours, je crois, avec des gens comme Etche et Stéphane, qu'on vient d'écouter au début, Olivia Salvadori, Kobice et Kid Millions, juste à l'instant, ou par exemple, les Bainté, juste après. Alors bon, peut-être que vous avez du mal à me comprendre, mais c'est pas grave, on s'en fout. N'est-ce pas? Dis, Yves, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il entend pas. Il entend toujours pas.
Si, non. Ça va.
Ça va,
merci.
On a toujours nous un
attends,
peu...
Attends, vous entendez ou vous entendez pas?
On entend, oui. Alors...
Parce que là, ça commence à me... Hein.
Bouton vert, en fait, nous ici, on peut se causer. Mais on cause pas aux auditeurs. Bouton rouge, on peut causer aux éditeurs.
Mais tu dis ça pour qui, là?
Pour moi-même. Non, et pour Yves. Voilà.
Ben c'est pour Yves.
Oui, parce que on... Mais moi aussi... Tu sais que quand on est à la technique, comme toi tu l'es en parce ce moment, que... on ne voit pas ce fameux bouton-là qui est dans le...
Comment ça?
Dans le studio même.
Comment
rouge,
ça,
qui nous donne l'autorité.
Mais bien sûr que vous le voyez.
Le droit de parler. On le voit, je veux dire, mais on le... On le gère pas bien, voilà. On sait pas bien ce qu'il veut dire.
Ah là là là là là.
C'est
là.
Très compliqué pour notre okay. Petit cerveau.
Bon, je vais finir par faire des émissions tout seul.
Non.
Ok.
Non, parce que attention, hein. Je sais pas si tu as de la musique tout de suite après ou bien quoi.
Non, mais je vous écoute.
Parce que Yves, il a déjà son article qui est tout prêt, hein.
Quelle est l'humeur du temps? Alors, Yves, Guy,
oui.
Tu veux commencer ?
Non.
Non.
Yves, il est prêt, Yves.
T'as rien à dire.
Oui.
Non, mais Yves, si tu le laisses parler, on est là jusqu'à 5h du matin.
Ah, c'est tout ? Bon, ça ira. Oui. Tu te rappelles, on quittait à 6h hein, avant, hein ?
Oui.
Dis donc, plusieurs fois, hein, on a quitté à 6h quand c'était le Covid. Oui.
Ouais.
Ouais. Là, c'est 5h du matin. T'es d'accord, Yves ?
Ah.
On va quitter à 5h du matin, une fois que t'auras fini. C'est ce qu'il dit, hein ? Oui, voilà. Il sourit quand même, hein, c'est...
Je sais pas s'il entend ou pas.
Si, il a un petit sourire narquois, mais... Ouais.
Est-ce qu'il entend ?
Oui.
J'entends. Mais j'entends très mal, c'est vrai que j'entends très mal.
Oui.
Ok.
Augmenter un peu le niveau, je sais pas.
Mais il a entendu quand même.
Je sais pas
quoi.
Là, c'est mieux.
Je te augmente un petit peu le niveau, c'est le 6, hein, c'est le 6.
Ouais, j'ai remonté pour tout le monde.
C'est le 6.
Oui. Ok, bon. Que quelqu'un commence, par pitié.
Vas-y, par pitié, oui.
Oui. Et puis on parle près du micro.
Très bien. Oh là, il est... Regarde.
Oh.
Il est aux petits oignons, là. Oui.
Oh. Ah, j'avais envie de parler de l'eau.
Ah,
parce
voilà.
que j'ai deux articles qui datent un petit peu. Il y en a un du 15 mars et l'autre du 17 mars dans Le Monde.
Voilà, par exemple, là, je vais prendre ma morphine, moi. Allez, vas-y.
Ouais, puis donc,
et qui raconte les réserves d'eau en France qui sont en fort déficit, à savoir 80% des nappes sont inférieures à la normale, ce qui augure d'une sécheresse aggravée en 2023. C'est un article du 15 mars dans Le Monde, signé par Martine Vallot. Et elle parle du Bureau de Recherche Géologique et Minière, qu'ils appellent le BRGM en abréviation, donc c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qu'il ne laisse aucun doute à ce sujet, compte tenu de l'état des nappes souterraines au 1er mars, les sols craquelés, les rivières et étangs à sec, il faut s'attendre à des difficultés cet été, et même à des situations tendues dès le début du printemps. Ils préviennent de ça dans leur bulletin du 13 mars. Alors, les réserves ne sont pas parvenues à se reconstituer. Le niveau de 80% d'entre elles est inférieur à la normale. Et en comparaison, moins de la moitié se trouvait dans le même cas à la même période de 2022. Et actuellement, 45% des nappes ont rejoint le stade de bas, voire très bas. En 2022, les pluies efficaces ont été limitées. Par endroits, elles n'ont débuté qu'en janvier. Et elles n'ont pas réussi à recharger les nappes fragilisées par une succession d'années déficitaires, rapporte le BRGM. Elles se sont arrêtées net en février 2022. Donc, et la tendance s'est alors inversée, elles ont commencé à décliner. Bon, voilà, c'est le mauvais souvenir de 2022 qui revient. Alors, même s'il pleut les prochains jours, disent-ils, il est difficilement envisageable d'ici au printemps et à la reprise de la végétation que les réserves se reconstituent. On s'attend à une probable dégradation lente sur les prochaines semaines. Donc il va y avoir en avril le développement des plantes et des cultures qui va accroître le phénomène d'évapotranspiration en absorbant l'humidité des sols, en empêchant d'autant l'infiltration des précipitations. De surcroît, le manteau neigeux faible n'apportera pas beaucoup de soutien dans les Pyrénées. Météo France prévoit la température plus élevée que la moyenne dans les prochains mois. Et donc la situation est préoccupante dans plusieurs régions, en particulier le couloir Rhône-Saône, de la Bourgogne à la Drôme, qui a déjà précédemment souffert de deux recharges hivernales successives déficitaires. La plaine du Roussillon, le Limousin sont aussi classés en rouge. L'amplitude est générale. Ce qui est inédit, c'est que le phénomène touche presque toute la France, constate Madame Violaine Beau, hydrogéologue au BRGM. Donc la liste des départements soumis à des restrictions d'usage pourrait s'étoffer par rapport à 2022. Ceux d'Île-de-France notamment pourraient s'allonger. Dans le centre du bassin parisien, en effet, certains des piézomètres qui mesurent la hauteur des nappes souterraines n'ont pas enregistré la moindre recharge ces derniers mois. Donc 13 départements étaient actuellement, au 15 mars, étaient classés en vigilance ou bien connaissaient déjà des mesures de restriction. Sont-elles efficaces ces restrictions ? Eh bien, ils annoncent, le BRGM menait une étude sur le sujet. Le, les premières analyses ont montré un impact flagrant dans la plaine de Roussillon et le sud de la Vendée, selon Violaine Beau, où ces économies d'eau imposées ont permis de ralentir le déclin des réserves souterraines. Les conséquences de leur affaiblissement vont être rapidement visibles, car 80% à 100% du débit des cours d'eau peuvent provenir des nappes phréatiques, donc durant l'été. En Italie, le faible niveau des nappes à l'été 2022 a permis à de l'eau salée de remonter loin dans la plaine du Po, et donc les forages pour l'irrigation seront devenus inutilisables. Bon, on sait bien que les Italiens, c'est pas la France, mais enfin bon, il faudrait quand même écouter un peu ce qui se passe à l'étranger. En d'autres conséquences, la baisse de l'eau dans les estuaires et les marais peut entraîner une concentration de polluants, une concentration de pollution diffuse. Une nouvelle sécheresse annoncera aussi une catastrophe pour la faune et la flore qui subit encore les effets de la précédente. Et le BRGM recense de surcroît des conflits d'usage aidés à pronostiquer entre irrigation, industrie, énergie, eau potable, sécurité civile, j'ai envie d'ajouter énergie nucléaire. Le plan eau, plusieurs fois annoncé par le gouvernement, n'est que plus attendu. Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'il a eu lieu depuis. L'assèchement des nappes souterraines est d'autant plus préoccupant qu'elle reste le meilleur endroit pour stocker l'eau en la préservant de l'évaporation, ainsi que des pollutions et contaminations diverses. Ça, c'est pour les gens qui sont favorables aux bassines. Pour favoriser l'infiltration de la ressource à travers les sols, celle-ci est évaluée à environ un quart des précipitations en moyenne annuelle, 23% précisément.
Excuse-moi, je peux t'arrêter deux minutes. Alors, je voudrais savoir pourquoi ce sujet.
Pourquoi ce sujet ? Parce qu'il y a eu des grosses manifestations pour des gens qui construisent des bassines. Qui ont fait un certain nombre de victimes civiles et un certain nombre d'actions des gendarmes un peu bizarres, disons quelques erreurs sur les personnes sur qui il fallait taper, suivant la gendarmerie même. Ces zones qui sont irriguées, elles représentent 8% des surfaces agricoles en France. Le reste se passe d'irrigation. Et ces 8% concentrent les problèmes donc de bassines. Mais je ne voulais pas rentrer dans un truc polémique de ce genre. Parce qu'il est clair que les bassines, elles sont, d'après les 12 personnes qui ont accès à la bassine où il y a eu cette manifestation, ils pensent que ça va résoudre leurs problèmes. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les agriculteurs qui ne sont pas raccordés à la bassine à côté, mais il y a une fausse piste là. Il y a vraiment une fausse piste. Et ce que dit cet article à un moment, c'est que le meilleur moyen de stocker de l'eau, c'est dans le sous-sol. S'il n'y a plus d'eau dans le sous-sol, on peut toujours essayer d'en stocker en surface, mais elle est soumise à l'évaporation, elle est soumise à la pollution, et on va devant d'autres problèmes, disons. Par ailleurs, j'ai un article de Madame Florence Denier-Pasquier, qui est juriste de l'environnement, spécialisée dans l'eau et des milieux aquatiques, administratrice de France Nature Environnement, qui est membre du Comité national de l'eau et a co-présidé le groupe de travail partagé les assises de l'eau en 2019. Et elle écrit un article le 17 mars, donc deux jours après le précédent, qui parle d'une inadaptation collective quant à l'usage de l'eau, comme en témoignent, dit-elle, de nombreux cours d'eau asséchés. C'est tout le cycle de l'eau qui est bouleversé. Les effets du changement climatique s'ajoutent à des décennies de forte augmentation des prélèvements, d'aménagements hydrauliques néfastes, de destruction des zones humides, d'arasement de talus, de haies, d'artificialisation et d'activités agricoles délétères pour les sols, autant de pratiques qui ont dégradé et altéré durablement leur potentiel d'infiltration de l'eau. Or, ce sont ces mêmes milieux qui dépolluent nos rejets traités, qui régulent nos écoulements, et nous sommes dans une spirale négative dont il est urgent de sortir. Ce contre quoi elle s'insurge, c'est que Nous ne disposons pas, le ministère de l'Agriculture donc, ne dispose pas actuellement des données indispensables pour une gestion équilibrée de l'eau. Et c'est ça qu'elle appelle à regarder. Elle dit que la quantité totale des prélèvements et les stratégies d'irrigation agricole ne font pas l'objet de données. Or, il s'agit d'un enjeu fondamental pour une gouvernance juste et durable de l'eau. Ils ont besoin de mieux connaître tous les prélèvements domestiques, non domestiques, et d'étudier leurs évolutions et leurs interactions. Bon, voilà, ce sur quoi je voulais attirer l'attention. Les surfaces irriguées, donc, elles représentent, comme j'ai dit tout à l'heure, 8% des surfaces agricoles. Donc, ça veut dire qu'il y a 92% des surfaces agricoles qui se passent de ce genre qui se passent de cette irrigation par voie de bassine, notamment. Et ce qu'elle appelle, c'est à essayer d'être moins flou sur les informations cruciales. Et elle appelle le ministère de l'Agriculture à rendre ces données transparentes et intelligibles pour les territoires qui s'emparent de l'enjeu de l'eau. Elle pense qu'il faut aussi considérer que l'agriculture non irriguée concerne plus de 90% du territoire et que c'est un domaine dont le ministère s'occupe mal. Elle parle de ce problème des 90% du territoire qui reste le parent pauvre du discours et des politiques publiques. Elle dit que construire une politique de sobriété, c'est organiser la diminution des prélèvements et la répartition d'une ressource limitée vers des besoins essentiels et justifiés. Le respect de la priorité donnée à l'eau potable, établie par la loi depuis 30 ans, est indispensable, comme l'est la seconde priorité du bon état écologique des milieux. Voilà.
Je crois qu'on aura compris pour ce sujet.
Je vous remercie.
The Post Non Radio Show, Radio Libertaire. Alors, juste une question ou une réflexion, je sais pas trop, par rapport à ce que tu dis. On a déjà eu un long aperçu de ce problème préoccupant. C'est certainement dû,
à... au manque d'informations.
Non mais, je pense que, en fait, l'article y répondait à un manque de pluie, mais également à une mauvaise gestion.
Je suis parti sur une idée de sécheresse, manque de pluie actuellement. Et puis, donc cet article, il était du 15 mars. Du 17 mars, on passe à autre chose. On parle sur la façon de gérer donc, l'eau en cas de manque, ou même gérer l'eau tout court. Et c'est deux problèmes qui sont voisins.
Il y a une évidente.
Disons, si il pleuvait en abondance comme d'habitude, on pourrait continuer à faire comme si rien n'était, utiliser l'eau comme on veut. Malheureusement, on est atteint par des problèmes de sécheresse, donc on est bien obligé de réfléchir un peu à comment gérer les problèmes d'eau. Et à ce moment-là, ce que dit l'article de Mme Florence Denier-Pasquier, c'est qu'on manque de données. Et elle dit que. Une gouvernance juste et durable de l'eau, par exemple, elle dit ça nécessite de mieux connaître les stratégies d'irrigation agricole sur le territoire. L'irrigation agricole, avec 45% du total des consommations, représente le plus gros usage de la ressource en eau. Il y a 30 000 points de prélèvement connus, mais elle pense que ce nombre reste largement sous-estimé. Et dans les régions les plus irriguées, ces prélèvements peuvent constituer jusqu'à 90% des consommations estivales, alors que les surfaces irriguées ne représentent en métropole que 8% des surfaces agricoles utiles. Donc,
c'est énorme.
Oui, c'est pour ça que j'insistais au début sur le fait que 90% de l'agriculture ne nécessite pas ces problème d'irrigation.
Oui, je suis pour ça d'apprendre ce chiffre-là, parce que, enfin, moi, personnellement, mais il n'y a pas que mes parents, mais tous les agriculteurs des villages aux alentours, il y en a très très peu qui arrosaient. J'ai jamais vu mon père arroser les champs avec de la flotte, quoi. Donc, je sais pas. Mais là, tu me rassures en donnant le chiffre que. Quand même 90%, donc...
C'est le type de culture qui est concerné. Il y a des cultures qui consomment plus d'eau que d'autres.
Voilà, et pour très peu de surface, en fait.
Pour des surfaces qui peuvent être importantes, mais c'est le type de culture qui est important. Il y a des cultures de maïs qui consomment beaucoup plus d'eau que...
Oui, je ne suis pas persuadé de ça, mais enfin... enfin, bon, il y a aussi que, bon... Avant, on cultivait des choses qui étaient cultivables à tel ou tel endroit.
Oui.
Mon père, il disait, ça, je le mets en vallée, ça, je le mets en plaine. Bon... Mais on n'allait pas mettre en plaine ce qui poussait très bien en vallée. Voilà. Mmh. Et je ne vois pas pourquoi des gens maintenant, sur les plaines, mettent du maïs. Donc voilà, il faut l'arroser. Tu as raison.
Il y a un problème de rentabilité.
Il y a un problème.
Ils regardent où il y a
exactement.
Un marché.
Exactement. Voilà, voilà.
Et ils ne s'occupent que de ça, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Là, elle dit qu'il faudrait réduire les prélèvements pour l'irrigation et les affecter à des productions indispensables, comme la production de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique,
oui.
Qui est un point incontournable d'une politique de sobriété.
Oui.
Et elle dit on n'en prend pas la direction.
Voilà.
Elle dit alors que les surfaces irriguées ont augmenté de 14% entre 2010 et 2020, de trop nombreuses questions demeurent. Quelles sont les principales cultures irriguées dans chaque territoire? Participent-elles réellement à la souveraineté alimentaire? Observe-t-on des évolutions significatives vers du matériel économe en eau? Quel est le croisement entre l'augmentation des surfaces et les nouveaux forages? Bon, bref, ce qu'elle dit, c'est que pour réagir, il faut connaître. Et connaître, ça nécessite... Il y en a qui vont dire... plus d'État, ben voilà, plus d'État, mais l'État, c'est aussi son rôle de s'occuper de ce genre de choses.
Radio Libertaire.
D'essayer de prévoir ce qui va se passer à brève échéance, sinon à quoi bon?
Wow. Alors, on comprend mieux quand tu lis ton article qu'effectivement, on plonge vers des solutions comme par exemple les bassines. Voilà.
Voilà.
Oui, voilà, oui, oui. et qui vont concerner qu'une petite parcelle de...
Qui ont décidé de faire une culture qui a une valeur sur le plan international, enfin, qu'on peut vendre à l'extérieur probablement. Mais suivant le type de plante, on a besoin de plus ou moins d'eau. Et puis, il y a un autre problème avec le Monclos, puisqu'on a décidé, après un long débat démocratique, dont tout le monde se souvient, de redémarrer le nucléaire. Ah, bon, je plaisante, mais il cite sur la même page du Monde de 17,
oui.
Il cite la centrale nucléaire de Chose. Alors, c'est dans les Ardennes, sur la Meuse.
Oui. Oui.
Et elle dépend pour ce refroidissement de l'eau d'une rivière, donc,
oui.
Elle est obligée de réduire drastiquement sa production d'électricité pendant 3 mois, à l'été 76. Pourtant, l'année suivante, le site est pressenti pour accueillir 2 réacteurs beaucoup plus puissants, dont la construction sera achevée en 96. Résultat, Chose est l'une des centrales françaises les plus exposées aux sécheresses.
Voilà,
ces réacteurs ont dû être arrêtés à cause d'un manque d'eau en 2018, 2019, 2020, totalisant des pertes 25 fois supérieures à celles de 76. Aujourd'hui, comme il y a 50 ans, la France envisage de réinvestir donc, dans ce parc nucléaire en construisant de nouveaux réacteurs ou en prolongeant la durée de vie de ceux qui existent. Peut-on éviter de reproduire les erreurs du passé ? Alors, le cas de Chose est un peu particulier, dit le monsieur qui a écrit l'article et qui est monsieur Thibault Lacombe, qui est ingénieur et président de Calendar, une start-up spécialisée dans l'étude des risques climatiques. Il dit donc ce cas est un peu particulier parce que cette centrale est limitrophe de la Belgique et exploite un fleuve transfrontalier assujetti à un accord de partage de l'eau qui l'oblige à s'arrêter lorsque le débit devient trop faible. Même si le parc nucléaire français consomme chaque année près d'un demi-milliard de mètres cubes d'eau, selon la compilation des rapports annuels de surveillance de l'environnement des centrales, les 12 autres centrales situées sur des fleuves sont soumises à des règles beaucoup moins strictes. En amont de Paris, la centrale de Nogent-sur-Seine, sur l'Aube, par exemple, peut fonctionner aussi longtemps que le débit de la Seine ne descend pas sous 8 mètres cubes par seconde, un débit qui est extrêmement faible. Donc plus le débit est faible et plus il devient difficile de diluer les effluents rejetés par la centrale, à commencer tout simplement par l'eau chaude. Et donc ça contribue largement aux indisponibilités de certains sites comme celui de Saint-Alban en Isère, celui de Bugey dans l'Ain. Et en revanche, les sécheresses ne représentent pas un risque pour le refroidissement des réacteurs nucléaires. C'est en réalité la partie électrique des centrales qui est très gourmande en eau. Et l'évolution des débits est suffisamment lente pour qu'elles soient arrêtées, les centrales, bien qu'avant que le niveau devienne critique. Mais les pénuries d'eau, donc si elles ne sont pas un enjeu de sûreté nucléaire, elles sont un enjeu de production d'électricité. Et on a vu qu'on était quand même un peu perturbé au niveau de la production d'électricité récemment. Donc on a une 50aine d'incidents par an en moyenne, lorsque la sécheresse se combine à la chaleur et qu'une part significative du parc nucléaire doit être mise en service. Pendant la canicule de 2019, jusqu'à 10% de la capacité de production a été arrêtée. Donc, c'est cette crainte qui a poussé EDF à demander la suspension des règles applicables à 4 centrales pendant l'été 2022. Bon, c'est toujours la solution de demander la suspension des règles.
Bah, oui.
Mais disons, le néophyte que je suis, ça le fait rigoler.
Bah, oui.
Ça fait sombrement rigoler. C'est un rigoler avec un petit rictus, quoi, disons.
Oui, toujours une entorse au règlement, quoi. Oui.
Alors en plus, si on parle de PR, les quantités d'eau nécessaires pour le refroidissement sont encore plus importantes. Le problème du nucléaire, c'est que l'expérience des dernières années prouve qu'il est difficile d'adapter les réacteurs existants à des conditions climatiques qui n'ont pas été anticipées à la construction. Et les mesures mises en place par EDF après les canicules de 2003-2006 ont permis, certes, de réduire la vulnérabilité des centrales nucléaires aux vagues de chaleur, mais les gains sur la température des fleuves et les besoins en eau ont été marginaux. Donc c'est avant la construction maintenant que les futures centrales devront être adaptées aux conditions climatiques qu'elles rencontreront à l'entrée en service vers 2040, puis tout au long de leur durée de vie qui va durer jusqu'à la fin du 21e siècle. Et cette adaptation est compliquée par les incertitudes sur l'évolution du climat. Autrement dit, on se demande un peu pourquoi on continue sur le nucléaire, quoi. C'est à moins de savoir résoudre ce genre de problème. On peut toujours construire et puis ensuite dire « Oh, bon, on va l'arrêter parce que l'eau chauffe trop et il y a trop de problèmes avec les poissons, par exemple.
Oui, » bah oui,
enfin
oui,
bon.
Oui.
Si on considère ce que fait l'Allemagne ou les pays du Nord, on peut se demander pourquoi on insiste tant sur le nucléaire.
Oui, parce que c'est le jour et la nuit, on va dire. Hein. Là, carrément, hein. Oui. Ah, oui.
On a des petites très différentes, disons.
Oui, oui.
Je ne suis pas dans les cercles de décision, mais je suis un peu étonné du manque de décision en France, d'une part pendant le premier quinquennat de Macron, et puis une brusque décision. J'ai parlé de décision longuement réfléchie et mûrie par des discussions par des personnalités scientifiques, disons. On imagine que les scientifiques discutent avant de construire une centrale nucléaire. Et là, brusquement, on a un président de la République qui est, je crois, assez peu scientifique, qui est surtout philosophe et littéraire, et qui se lance dans une grande aventure, disons.
Philosophe, littéraire et banquier.
Oui, j'oubliais banquier.
Oui. Oui, mais c'est vrai, tu disais tout à l'heure, on ne se retourne pas vers les autres, qu'est-ce qu'ils font ou quoi. Regarde sur l'Italie ce qui s'est passé avec l'eau salée qui remonte hein, dans des principaux cours d'eau. Là. Et là, avec le nucléaire, c'est quand même de l'autre côté, hein, c'est l'Allemagne.
Ça, on a des exemples de terres qui sont devenues incultivables. Il faut lire les bouquins de Diamond, qui est un Américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Effondrement, toute une série de livres qui sont tous plus intéressants les uns que les autres sur ces problèmes d'agriculture, disons, et la façon dont, si on gère mal les sols, ils deviennent complètement impossibles de les cultiver ensuite. Quoi. Il faut une longue période pour les mettre en place.
Aïe, aïe, aïe.
Ok. Tout ça mérite une pause musicale.
Thank you.
Radio Libertaire de Poste, non Radio Show, épisode 2 de la saison 2, non, de la 14e saison, épisode 2 de ma nouvelle vie, retour d'entre les morts. Voilà, c'est Radio Libertaire, le 89.4 sur la bande FM, toujours avec cette compilation de Male Body Will Be Next Part 1. Et à l'instant, c'était The Filmmaker, et juste avant, Galina Osera. Alors, oui.
Bon, ouais, Henrik, dis donc, tu dis ma nouvelle vie, mais t'as pas changé de date de naissance quand même?
Non.
Ah.
Mais quand même, j'en ai une. Blague, ouais. J'en ai une autre.
Ouais.
Qui est le 7 janvier 2023.
Voilà, tu as une autre date importante. Oui, oui.
Oui. C'est ma...
Ah, de janvier 2023, je pensais que c'était un petit peu avant la fin de l'année, ou non?
Non, non, c'est là où je suis mort.
Ah bon, d'accord.
Oui. Ah oui. Oui, puisque j'ai fait un arrêt cardiaque.
Ah, oui.
Ah oui. Pendant une des opérations. Puisque j'en ai subi plusieurs. Et donc, lors de la troisième opération, voilà, donc c'est le retour d'entre les morts, dans ma nouvelle vie de zombie. Et j'ai la voix qui va avec.
Et dans ton au-delà, il y a des mecs sympas,
J'en sais rien.
Ah, t'en sais rien, oui, oui, bon.
Je peux pas vous en parler.
Non, t'as pas voulu communiquer, quoi.
J'en sais rien, je sais pas. Je peux pas dire.
Ça ne se commande pas, voilà, ouais.
Je peux pas dire.
Oui.
J'ai rien vu. Voilà, je sais pas.
Voilà.
Je savais.
Tu cherches même pas à te souvenir d'un truc pour écrire un bouquin, quoi.
Ah,
un petit fascicule, quoi, un truc.
Je me souviens. Non, mais je me souviens de rien.
Oui.
À vrai dire. Bon. Alors peut-être.
Mais il a des notes, quand même.
Peut-être que c'est caché.
Ouais.
Quelque part, très loin.
Oui.
J'en sais rien.
Oui, je parce vois. Que sinon, on connaît des personnes qui pourraient te faire l'illustration de ce genre de. D'ouvrage, tu vois, avec.
Ouais.
Bon, bien sûr, ouais.
Ok. Et. Alors, est-ce qu'on continue un peu ou pas?
Je sais pas, c'est comme tu veux. Moi personnellement, j'ai rien amené aujourd'hui, mais bon. Je vais. Voilà. Je te fais pas honneur aujourd'hui. Hein,
non.
Oui. Ah, j'étais là la semaine dernière, hein, quand même. Ouais.
Ah oui, je sais.
Je voulais y être. Oui.
Je sais. Bon, on peut.
Non, puis cet article sur l'eau, ça me... c'est bien, parce que moi, c'est mon truc aussi. C'est l'eau, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Ouais.
Ouais.
La base de la vie. Ouais. Ouais. Et ça. Ouais. Je suis un ancien paysan, bon, quand même. Hein. Ouais.
Ah, ok.
J'ai fait toute ma jeunesse à travailler sur la terre. Hein. Ouais.
D'accord.
Et puis plus après, parce que j'y allais tous les week-ends travailler avec mon père.
Ouais.
Tous les week-ends.
Ok.
Même quand je travaillais ici en région parisienne.
Ouais. D'accord.
Voilà, ouais.
Bah, on va peut-être s'écouter un morceau.
Oui, très bien, oui.
Ok, j'en ai calé un.
Oui.
Et puis on voit.
Oui, d'accord. Ouais.
Ok, je prépare. Voilà. C'est parti. Thank you. The Post Non Radio Show. Alors je sais pas où est passé Guy. Ah, il est là. Je pense que on va peut-être s'arrêter pour ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Yves.
Oui, bon. C'est ce que tu veux.
Guy, Yves.
Oui.
Moi je peux pas non plus parler pendant des heures.
Oui, voilà, très bien, mais c'est très bien déjà, oui.
Donc, ouais. Ce qui fait que ça limite un peu ma...
On peut m'empêcher de parler de la taxation des plus hauts revenus, je le sens.
Oui, bon bah, de toute façon, tu as...
Ça sera pour une prochaine fois.
Tu as des dizaines et des dizaines de sujets sous le coude. Des dizaines. Que dis-je ? Des centaines de sujets sous le coude.
Oui, je pense, oui. Oh. Alors attention, monsieur, il m'a déjà donné une petite précision sur le... Pourtant, ça semble très précis comme ça, le titre. Hein. Voilà, la taxation des plus hauts revenus. Hein.
Des plus hauts revenus.
Et lui me dit, attention, ce ne sont pas les plus hauts patrimoines. Donc c'est déjà, tu vois, une différence, déjà.
C'est assez flou.
Donc il y a une mise à l'écart un peu, là. Oui, c'est assez flou.
C'est un petit peu flou. Leur titre contredit un peu l'article lui-même, dont je n'ai pas envie de parler, mais ils parlent de la fortune.
Ah, d'accord.
Donc je pense que leur titre, ils n'ont pas bien compris le problème. Parce qu'il y a la fortune, il y a les revenus d'autre part, et puis il y a le patrimoine d'autre part. Et le patrimoine, c'est... Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans.
Bah, ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas voulu détailler.
Je ne suis pas sûr que le titre soit fait par les prix Nobel qui ont fait cette tribune.
Ah oui, ça aussi, peut-être. Hein. Oui, le titre a été collé peut-être après.
Prix Nobel et économiste. Bon, on parlera de ça une autre fois.
Ouais.
Ok, on parlera de ça.
Très bien, hein. Bah, tu vois, ça donne déjà l'eau à la bouche. Oui.
On parlera de ça une autre fois sur Radio Libertaire. Donc, comme d'habitude, le programme de nuit. Là, on va encore s'écouter 2-3. Puis moi, ma voix fatigue.
Oui. Et puis, tout à l'heure, tu nous as expliqué ce qu'on avait déjà entendu.
Oui.
Et là, ce qu'on vient d'entendre et que.
Alors là, c'était Anna versus Lune.
Oui.
Avec cette espèce d'instrument là.
Ben oui.
C'est peut-être synthétique. Hein.
À un moment, ça sonne un peu comme si c'était... C'est drôle parce que ça sonne comme si c'était un balafon. Hein. Très clair d'ailleurs. Hein.
Oui.
Et puis hop, alors je dis, tiens, je connais pas cet instrument-là.
C'est peut-être du synthétique. Ouais. Alors encore deux ou trois titres de cette compilation.
D'accord, oui.
Et puis, voilà, c'est le programme de la nuit. À bientôt. Bonne nuit. Bonsoir.
Ouais. Au revoir. Bonsoir.